18h-19h, Time Sport, avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Un grand salut à tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM et les amoureux de Time Sport, votre émission consacrée au sport que vous pourrez retrouver du lundi au vendredi de 18h à 19h. Je rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission au 01 53 48 30 00. C'est parti pour une heure de sport.
Time Sport.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, Nassim Bourras, Karim Baldé, Claude Tollé, Mamadou Lamine Mané. Aujourd'hui au programme, on parlera de Dimitri Ribolovlev, le président de l'AS Monaco, placé sous contrôle judiciaire dans une affaire d'escroquerie, du fichage ethnique du PSG, qui fait beaucoup réagir. Ensuite, on partira aux États-Unis pour débriefer la dernière journée de NBA, avec notamment Milwaukee qui donne le son à Golden State. On évoquera évidemment la liste des bleus annoncée par Didier Deschamps. Et on finira en beauté avec la Formule 1 et le Grand Prix du Brésil. Tout de suite, c'est l'heure du ras-le-bol.
Time Sport, le ras-le-bol.
Et oui, et sur le ras-le-bol, c'est évidemment de football qu'on va parler, notamment du fichage ethnique du Paris Saint-Germain, la planète football qui est un peu justement bouleversée par ces affaires, notamment à Monaco. Vous en avez pensé quoi justement? On va parler de Monaco notamment, le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev qui est inculpé. Nassim, qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette histoire qui remue? Bon, il y a pas que Monaco, on parlera du PSG dans un instant, mais je te laisse la parole sur ce sujet.
J'y pense que le pauvre Ribolovlev n'a vraiment pas de chance depuis son arrivée à Monaco. Faut pas oublier qu'à la base, il avait énormément de moyens à sa disposition, mais dès son arrivée à Monaco, il y a eu ce divorce qui lui a coûté la moitié de sa fortune. Déjà rien que ça avait posé problème pour les débuts de l'AS Monaco, puisqu'on avait dit que l'AS Monaco allait pouvoir rivaliser avec le PSG. À partir de ce moment-là, il y a eu un problème qui fait que Monaco a dû se réduire à des achats de joueurs, puis à de la revente. Puis, il y a maintenant cette histoire-là qui fait que Ribolovlev est encore plus dans de sales draps. Sachant que l'AS Monaco et sa situation sportive, on la connaît et qu'elle est plus que préoccupante, ça arrange vraiment pas les choses. C'est vraiment une saison noire pour Monaco et le pire, c'est qu'elle vient juste de commencer. J'espère que ça va s'arranger pour eux parce que là, on n'est plus vraiment dans le domaine du sportif. J'ai l'impression que Football League nous a pas encore tout dévoilé, donc les supporters monégasques doivent encore transpirer, il y en a encore pour un petit moment.
Ouais, c'est vrai qu'après les Wikileaks, maintenant c'est les Football Leagues. Karim Baldé, qu'est-ce que tu en as pensé justement de ces histoires qui touchent le football et notamment la Ligue 1? On reparlera du PSG dans quelques instants, mais Monaco du moins.
Bah d'abord pour Monaco, tu parlais de pas de chance. Là où ils ont pas eu de chance, c'est sur le timing déjà, parce que vu la saison compliquée qu'ils ont, ils ont un match de Ligue des Champions contre Bruges où déjà ils sont quasiment éliminés. Et pam, la nouvelle de Ribolovlev tombe juste avant le coup d'envoi. Donc franchement, pour eux, c'est vraiment vraiment pas de bol. Après, pour revenir sur le fond du problème, c'est vrai qu'il y a eu ces problèmes de divorce notamment qui ont mis un frein très tôt au projet monégasque. Aujourd'hui, ça pose quand même un gros souci parce que qu'est-ce qui se passe si les Russes ne peuvent plus mettre d'argent? Déjà qu'on voit là, avec toutes les ventes de joueurs, tout ce qu'ils ont vendu ces dernières années, là on a atteint le point où ils ne peuvent plus vraiment avoir une équipe compétitive, ne serait-ce que pour la Ligue 1. Quand on voit les joueurs alignés mardi dernier en Ligue des Champions, quand on voit les jeunes qui rentrent sur le terrain, on se dit mais c'est pas possible, les jeunes ils ont 3 ans et demi, ils rentrent sur un terrain de football, c'est la Ligue des Champions quoi quand même. Donc c'est pour l'AS Monaco, en tout cas on parlera de Paris tout à l'heure, mais rien que pour rester sur l'AS Monaco, c'est très très inquiétant. Et ces histoires de Dimitri Ribolovlev, ça risque de traîner dans le temps en plus. Donc moi personnellement je suis assez inquiet.
Et puis en plus de ça, l'ancien directeur des services judiciaires de Monaco et l'équivalent du ministre de la Justice en France, Philippe Narmino, qui a également été mis en examen ce jeudi. Mamadou, qu'est-ce que tu en penses de ces histoires qui touchent la planète football? On reparlera de Paris dans quelques instants, mais du moins... Enfin, du PSG dans quelques instants, mais du moins Monaco.
On avait évoqué ici le projet de l'AS Monaco, et moi j'avais émis des doutes sur les termes sportifs, quand ça commençait à aller mal. Je me suis dit, est-ce que les Russes ne sont pas là pour faire du one-shot? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire dans la durée? On peut comparer d'autres projets où il y a des gros investissements. Moi, j'ai toujours l'impression qu'effectivement, c'est une vue à courte vue qu'ils ont avancé. La preuve, sportivement, on a régressé chaque année. On n'a pas régénéré le groupe comme il devait se faire. On a vendu des joueurs et on n'a pas pris l'équivalent. Et plus les années passent, on se retrouve aujourd'hui avec quasiment une équipe, comme le disait Karim tout à l'heure, il y a quasiment que des minots dans l'équipe. Donc, s'il y avait une volonté de se projeter et de construire quelque chose sur de la durée, un grand nom qui part est remplacé par au moins l'équivalent ou quelqu'un qui est en devenir. Et j'ai pas l'impression que c'est ce schéma-là qu'on a pris à l'AS Monaco. On a vendu les bijoux de famille dès qu'on a pu mettre le pactole sur la table, et derrière, bah, j'ai l'impression que ça va vraiment sur la pente descendante. Et en plus, les affaires qui concernent aujourd'hui le président monégasque de l'AS Monaco plutôt vont dans mon sens. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un coup de barre à droite pour tout remettre en place et remettre le projet? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas trop parce que il y a énormément d'argent en jeu. On voit qu'il y a des choses qui circulent. Je sais pas où en est le projet monégasque aujourd'hui.
Et oui, tu fais bien de le rappeler. Il y a le côté financier, mais il y a surtout le projet footballistique mené par Monaco qui te convient pas visiblement. T'en avais déjà parlé. Où il est le problème exactement? Parce qu'en plus des mauvais résultats qu'on connaît, que certains clubs connaissent en Ligue 1, c'est vrai que ces images, ces affaires là, ça gâche un peu l'image du football et du football français. Qu'est-ce que t'en penses, Claude Tollet?
Ça fait beaucoup là.
Ça fait beaucoup, c'est ça.
On sent le défi à sa phrase.
Voilà. Tout ce qui nous a tombé dessus cette semaine.
C'est peut-être pas fini.
Là, pour rester, c'est clair, c'est pas fini. De toute façon, il y a toujours eu des histoires, mais c'est vrai que là, concernant Monaco et son président, c'est assez inquiétant. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On entend même que le transfert de Mbappé ne serait pas arrivé aux caisses du club, mais
avec de l'argent tombé dans des poches,
il y a peut-être des spéculations.
Il y a
quand même, c'est pas forcément des spéculations. D'après les documents qu'ils ont obtenus, il y a eu de l'argent, et notamment auprès de Jorge Mendes. Pourquoi il a touché de l'argent alors qu'il n'était pas directement impliqué, puisque c'était pas l'un des conseillers ou l'un des agents de Kylian Mbappé du club?
Ce que je veux dire, c'est qu'on a peut-être pas tous les documents en main pour pouvoir.
Ça, après, il y a pas besoin des documents. On sait très bien, c'est de longue date que maintenant les agents prennent des commissions lors des transferts. Ça donne pas.
Il y a des agents et des intermédiaires, etc.
Oui, bien sûr.
Faut savoir qu'il n'est pas le seul. On parle de 9 autres personnes aussi, 9 autres personnes inculpées, dont un ancien ministre. Ça ne fait que commencer, malheureusement.
Et puis c'est bien, tu fais bien de le rappeler, justement, l'affaire du milliardaire russe et du patron de l'AS Monaco, Dimitri Ribolovlev. C'est un conflit avec son ancien marchand d'art suisse, donc c'est un conflit avant tout personnel, même si ça touche le club, parce que voilà, c'est par rapport à sa fonction, c'est quand même un conflit personnel. On voit pas trop la fin dans cette histoire, parce que voilà, comme le disait Karim Baldé à l'instant, on en est qu'au début. Tu voulais rajouter quelque chose, Nassim?
En fait, c'est un problème assez compliqué, parce que là tu parles de problème personnel, mais c'est un problème personnel qui touche le club. Je vais prendre un autre exemple où les gens justement se fourvoient assez facilement. C'est le cas de Lyonès au Bayern Munich. Quand il s'est retrouvé en prison, lui, c'était parce qu'il a eu de la fraude fiscale, mais avec ses revenus. C'est-à-dire qu'il avait fraudé personnellement.
Pas avec le club.
Voilà, le club n'avait absolument rien à voir. Le problème de Ribolovlev, c'est que là, ses problèmes touchent le club. Et le problème, c'est que Ribolovlev, contrairement à Eunès, est intégralement lié au club. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui... Voilà, imaginons dans le plus grave des cas, il se retrouve en prison, le club est sans son directeur, sans son donneur d'ordre principal, sans son principal pourvoyeur de fonds.
Après, les gens le savent que dans tout business, on connaît pas les dessous de la table, qu'il y a des histoires, il y a des affaires.
Mais là, pour le coup, il est quasiment face à la justice. Chose que c'est pas forcément le cas dans d'autres histoires. Là, il est quasiment mis le nez devant ses affaires. Si demain la justice décide de suspendre ses activités par rapport à l'AS Monaco, qu'est-ce qu'il advient de l'AS Monaco? Liquidation, rétrogradation judiciaire. Tout peut arriver.
Et avant même ça, parce que l'historique des dernières années montre aussi à quel point on peut être inquiet, puisque au moment où Ribolovlev a divorcé de sa femme avec la moitié de la fortune partie, c'est là où Monaco s'est dit, ah non, le côté on investit à fond dans des gros joueurs type James Rodriguez, Falcao, derrière on va faire une politique de jeunes pour faire monter
donc ça forcément une influence, le personnel a une influence sur le
club. Monaco a plutôt bien tenu en fait, parce que jusque là ils ont eu des joueurs sortis du centre ou même achetés jeunes qui ont bien fonctionné, Thomas Lemar, Silva, Mbappé, bien entendu.
Ça a bien tenu parce qu'ils ont des dirigeants extrêmement compétents.
Ça fonctionne pas tous les ans.
Il y a un entraîneur qui s'est bricolé aussi.
Il y avait une bonne base, vrai gros travail qui avait été mis en place de la part des dirigeants.
Les amis, c'est important justement, Nassim le précisait à l'instant, de rappeler que voilà, cette affaire intervient dans d'autres affaires, Football Leaks, le fair play financier, le transfert d'Mbappé ou encore le fichage ethnique dans le club du Paris Saint-Germain pour les jeunes. En plus des résultats sportifs européens proches du scandale, est-ce que la Ligue 1, voilà, peut-elle encore plus s'effondrer dans les mois à venir? C'est ça qu'on pourrait se poser comme question, parce qu'il y a le côté footballistique, il y a le sport, mais il y a aussi le côté financier, parce que sans le côté financier, maintenant les clubs ne tiennent plus, quoi. Karim.
Alors après, je sais pas si on peut lier les mauvais résultats sportifs, et on aura l'occasion d'y revenir le jeudi noir encore une fois, on va pas se répéter, mais voilà, ou même le mercredi soir, ou le mercredi noir ou le mardi noir, avec ce qui se passe au niveau judiciaire. Ce qui se passe au niveau judiciaire, ou du moins les affaires plutôt, c'est Monaco et le Paris Saint-Germain, ce sont deux locomotives françaises, les deux principales de ces dernières saisons. Donc on peut être inquiet sur ce niveau-là. Sur le niveau global du foot français, ça c'est encore autre chose, parce que Rennes, Marseille, Bordeaux, ça c'est juste qu'il y a un manque, on en parlait ici même quand je suis venu il y a quelques semaines, je suis déjà venu après un jeudi noir, et je crois que c'était après la première ou la deuxième journée
c'est ça,
de la Ligue Europa, et là c'était plus un constat sur le fait que les clubs ne voulaient pas vraiment la jouer. Donc ça je mets un petit peu à part, mais pour revenir sur les affaires en l'occurrence, et notamment sur le Paris Saint-Germain, le problème à Paris... par rapport au reportage envoyé spécial hier.
Ou le fichage ethnique.
Voilà, enfin, fichage ethnique. Il y a deux choses. Le fichage ethnique, c'est pas facile à dire. Je reconnais. Ça pose un gros problème moral, évident, parce que d'avoir des fiches de recruteurs avec l'origine, maghrébin, ou bien français, ou antillais, ou noir, évidemment, c'est choquant. Et tous autour de la table, on va être d'accord. Mais, entre guillemets, Paris s'est réveillé très tardivement, mais Paris, nous affirme, en tout cas actuellement, qu'ils ont arrêter tout ça il y a quelques semaines, quelques mois. Bon, il y a un autre aspect quand même, moi je trouve, dans les révélations de Football X, qui est peut-être plus handicapant pour le Paris Saint-Germain à terme, c'est cette histoire de transfert de mineurs, en l'occurrence Kays Ruiz, qui est arrivé au Paris Saint-Germain, qui était recruté entre guillemets Barcelone. À l'âge, en provenance de Barcelone, alors qu'il était très jeune, et normalement d'après les règles de la FIFA, on ne peut pas amener un mineur d'un pays à un autre sans raison personnel des parents. Il faut que les parents soient déménagés ou autres. Et là, on voit dans le reportage qu'en gros, ils ont contourné ça, pour expliquer en deux minutes, ils ont contourné ça en faisant un contrat au père et en faisant signer au père en gros une décharge quoi, auprès de la FIFA. Donc ça, c'est plus problématique et Paris pourrait être interdit de recrutement.
Nassim, voilà. Tu voulais dire quelque chose sur le Paris Saint-Germain?
Ouais, c'était par rapport au fichage ethnique. Tu vois, j'arrive à le dire correctement.
Oui. C'est vrai. Il n'a pas plus, c'est génial.
Non, mais pour en fait, le souci, c'est que moi, j'aime bien... Donc le PSG a accepté le fait comme quoi voilà, ils ont bien fait du fichage ethnique pendant un certain temps.
Eh ben,
qu'on m'explique.
On va en reparler juste après du fichage ethnique puisque
pardon, j'ai pris la parole.
Puisqu'on a parlé beaucoup de Monaco, on a parlé beaucoup du PSG. Restez connectés sur Beurre FM et sur Time Sports. On se retrouve dans quelques instants puisque on aura l'occasion de parler de NBA mais également de rugby. À tout de suite.
Time Sports revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport. On a parlé football à l'instant justement avec les affaires qui touchent différents clubs, notamment Monaco et le PSG. On va parler NBA juste après et on va finir en parlant de la Formule 1 et du Grand Prix du Brésil. Mais tout de suite, juste avant la victoire, on va revenir avec Nassim Bourras sur les affaires qui touchent le PSG. C'est parti. Nassim,
oui, qu'est-ce voilà. Donc juste avant la petite coupure, j'expliquais en fait que voilà, le PSG a donc bien admis avoir fait du fichage ethnique. Moi, j'ai une question simple. À quoi ça sert honnêtement? Alors OK, ils ont fait du fichage ethnique, dans quel but? Quel est le but?
Les
dirigeants du PSG en se disant voilà, on va faire du fichage ethnique. Un tel est d'origine africaine, un tel est d'origine asiatique, un tel est d'origine espagnole, je sais pas n'importe quoi. En quoi ça avance les recruteurs, le staff? Les dirigeants
c'est un
du
autre
PSG.
Problème. Ouais, tu sais que c'est un autre problème.
Est-ce qu'il y a un intérêt en fait?
C'est un autre problème.
Non, parce que
il est plus profond le problème.
Non, mais il y a bien eu du fichage.
Il y a bien un but derrière en fait.
Mais le but, c'est parce que tu sais, tu le sais. Qu'est-ce qu'on te parle de?
Non,
quoi,
mais c'est un club de foot qui est censé gagner de l'argent derrière la performance de ses joueurs.
Je sais très bien que ça soit les clubs de foot, que ça soit. Malheureusement pour moi, ce problème ne touche pas que le PSG. Pour moi, il touche le quotidien. Enfin, c'est un problème qui est beaucoup plus profond.
Bien sûr, bien sûr.
Lorsque demain tu veux aller tu vas postuler pour aller bosser. Heureusement que les choses quand même s'améliorent et ça on le dit pas assez et c'est vrai. Mais t'as encore des individus.
Ouais, puis même le
attends. Oula, là on a Nassim, on a Monsieur Baldé, Monsieur Tollet, Bobigny. C'est la réalité.
Mais que...
ça va au-delà de cela et c'est terrible. C'est très grave, mais c'est au-delà de cela.
Mamadou.
Enfin, je suis sur la même longueur d'onde que Claude. Non pas pour pouvoir défausser le PSG, mais pour sortir en face au débat de son cadre. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui, enfin, je sais pas si on
qu'on fait du fichage, mais de toute manière,
En tout cas, bien sûr qu'on fait du fichage. Récemment, d'ailleurs, le syndicat FO Force Ouvrière, le secrétaire général, a démissionné suite à des affaires de fichage.
C'est un problème, juste à préciser. Ce qui touche le PSG aujourd'hui, et on le voit par le bout de la lorgnette, c'est un problème sociétal. C'est-à-dire qu'on est obligé à un moment donné d'avoir les origines des personnes pour X ou... Nassim demande pourquoi. Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison. Quand tu vis effectivement dans une société où tu te dis que tout le monde peut avoir ses chances et qu'on n'est pas obligé, je ne suis pas en train de faire de l'angélisme ou faire de la philosophie à un vendredi soir, mais c'est qu'à un moment donné, tu estimes qu'il y a d'autres personnes que on peut pas trop en voir. Ça pose un problème. Moi, je vais juste vous refaire ici une. On est aujourd'hui en 2018. Frédéric Jaillant, un journaliste de TF1, qui à une époque, c'était un match, le Racing Club de Lens à l'époque recevait, je sais plus qui.
Il devait avoir Djoli Boko à Lens.
Il y avait Djoli Boko, il y avait Ferdinand Colli. Enfin, l'équipe était très 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 marquée, on va dire. Je sais pas si on peut dire ça marqué. Bon, et Frédéric Jaillant a sorti en direct une phrase qui m'est restée.
Roger Bolli.
Comment peut avoir autant de joueurs de couleur sur un terrain? On est en 2018 et je te parle de ça il y a plus de 15 ans. Donc on va pas noyer le poisson, on parle du PSG, mais c'est pour dire que cette pratique qui est d'aujourd'hui d'ethniciser les gens, de les compartimenter, finalement c'est un problème
surtout qu'elle est contre-productive en fait. Mais bien sûr, t'as choix entre un Adrien Rabiot et un Kylian Mbappé, tu vas retirer Kylian Mbappé parce qu'il est noir.
Mais ce qui me semble encore plus débile, il suffit juste de regarder les équipes de France de jeunes. Tu les regardes en U15, en U17, en U19, tu regardes les équipes du PSG en U15, U17, mais tu retrouves quasiment que des joueurs
Les métissés, c'est tout. L'équipe est très métissée. Il faut dire les choses. L'équipe des U17, des U18 de l'équipe de France, elle est métissée aussi.
Bien sûr. Non, mais il faut recentrer le débat sur est-ce qu'on peut accepter du fichage, surtout dans le milieu sportif.
Impossible.
Bien sûr que non.
Tu veux juste que non. Tu veux pas l'accepter.
C'est ça le débat.
Le débat que tu poses, c'est est-ce qu'on doit accepter le fichage? Est-ce que tu penses sincèrement qu'une personne ici va dire oui?
Non, mais en tout cas,
Non. Même pour trouver des arguments pour,
ça va être compliqué. Même dans l'avocat du pas.
Non, attends, mais
même sérieusement, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui est pour,
ma question,
même si je vais être pour quelqu'un, je me mets dans la peau de quelqu'un qui va être pour le fichage, je vois pas d'intérêt réel pour un club. Tu perds du talent.
Oui.
Tu perds du talent.
Non, alors c'est quelqu'un
qui prend des risques.
C'est
quelqu'un qui prend des risques inconsidérés. Au niveau de l'image, au niveau du talent.
Mais c'est des pratiques qui sont.
Ça serait quelqu'un qui le ferait, mais en termes de communication pour dire voilà la couleur de mon équipe. Voilà pour le dire, mais pas pour les raisons sportives, parce que quand tu fais ça, tu te coupes de la compétition.
Oui.
Parce que tu coupes des meilleurs. Alors si les meilleurs sont plus cette tendance là que l'autre, tu décides que délibérément de t'en séparer. Tu ne fais plus de compétition. Tu veux faire de l'affichage. C'est tout.
Mais ce que je voulais dire, juste avant de préciser, Nassim, c'est pas ma question, c'est pas est-ce qu'on doit tolérer le fichage, c'est quand qu'on va condamner le fichage, peu
capitaine,
importe quand.
Capitaine,
c'est
capitaine,
ça la question.
Le football a un reflet de 10 ans d'avance sur la société. C'est ce qui se passe malheureusement au quotidien.
Et bien sûr.
Pour ceux qui savent, je suis professeur, d'accord, j'ai des classes de seconde, de première. Donc on est en train de travailler, si tu veux, sur le recrutement. Voilà, ça va être des futurs comptables, j'espère, pour eux. On travaille sur les CV. C'est le même problème. Moi, je les prépare à ça. C'est une triste réalité, malheureusement. Parce que je leur dis que lorsqu'ils vont être sur le marché...
Mais Claude, tu fais bien le parallèle, notamment entre la vie du quotidien et le sport. Justement, il y a un lien, et ça, on peut le condamner.
Justement, il y avait pas de lien réel entre le sport et la vie réelle, dans le sens où le sport était un des seuls coins de la société
où tu étais préservé du racisme, où tes
capacités techniques, physiques étaient au-delà de ton origine.
D'accord. Mais je pense que toutes ces barrières.
Le problème, c'est que là, le sport est en train d'être rattrapé, malheureusement, par la vie de tous les jours. Et ça, c'est un gros problème, parce que maintenant, même si vos capacités physiques et techniques, et même si votre joie de faire du sport ne vous permet pas de faire ce sport, où vont aller les jeunes?
Si je peux en rajouter, regarde, tu regardes, on parle de l'équipe du PSG, l'équipe de France. D'accord? Tu as en moyenne, en Ligue 1, tu as 70% de joueurs de Ligue 1 d'origine africaine. Mais quand je dis africaine, c'est tout maghrébin, etc. D'accord? Ils sont joueurs, ils apportent quelque chose au club et tout sur 10, 15 ans, très bien. Mais après, ils sont où ces gens? Est-ce qu'ils sont tous idiots? Non, mais moi, je
pour un Habib Bate, on aura combien?
Ça fait, on va dire, immigration, ça fait 50 ans. Est-ce que on en voit combien?
Non, mais
rarement, chez
clairement,
les coachs,
je suis d'accord.
Rarement chez les consultants.
Je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est que ces pratiques-là, elles existaient avant. Maintenant, on en a connaissance. Et ce qu'il faut, c'est que surtout que ça soit sanctionné. Bah,
en 40,
c'est surtout ça.
Elles existaient moins.
On va pas dire, là, on part sur un autre débat, mais on pourra en reparler autre part, mais on va pas dire que le racisme, c'est aujourd'hui. Il y en avait avant dans le sport.
Alors, on rentre encore plus dans la philosophie et dans l'affect, mais il y en aura toujours. Il y aura toujours des distinctions.
On sera toujours le raciste de quelqu'un d'autre.
Bien sûr, tu distingueras toujours par rapport à quelque chose.
On va faire le mot de la fin avec Karim sur ce sujet.
Oui, par rapport à cette affaire de fichage, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu l'envoyé spécial justement qui traite de ça, il y a une chose aussi qui est très choquant, et là je rejoins un peu ce que vous dites, on se demandait pourquoi ils font ça au niveau sportif, ça n'a pas d'intérêt, mais il y a l'un des recruteurs au téléphone, sous couvert d'anonymat, qui dit quand même, oui à un moment donné on ne voulait pas avoir que des blagues costauds, mais on voulait avoir des joueurs avec de l'intelligence de jeu.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ce qui est terrible, c'est que le recruteur en question sous-entend clairement qu'en gros, les Renault peuvent pas avoir
c'est un préjugé. Et quand on va revenir sur ce que disait Claude, on pense exactement la même chose, en général, pas mon cas personnel, tu te présentes dans une entreprise où tu n'auras pas de poste à un moment donné de décision parce qu'on va estimer que tu n'es pas en capacité
de diriger.
C'est pas un dirigeant, c'est plus un exécutant. Donc c'est vraiment un problème sociétal.
Et c'est affligeant que des gens, notamment les recruteurs, mais pas que, pensent ça.
On avait parlé de ces quotas, souvenez-vous, avec Laurent Blanc déjà.
En 2012.
De toute façon, on va suivre ça de très très près, autant l'AS Monaco que les histoires qui touchent le PSG. Cette fois-ci, on va clôturer cette page football et on va partir sur aux États-Unis sur la NBA et c'est l'heure de la victoire.
Time Sport, la victoire.
OKC qui gagne contre Houston ou encore Milwaukee qui gagne à Golden State. Il faut rappeler aussi la victoire de Kyrie Irving face avec Boston.
Avec grandement contribué quand même.
Voilà.
Le comeback.
Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est a-t-on les plus gros concurrents de Golden State au vu du début de saison, Karim?
Les plus gros concurrents, peut-être. Alors après, moi,
il en manque un.
L'affect voudrait, en tant que qu'ancien habitant de Toronto, voudrait que je mette les Raptors. Voilà. Et je vois que Nassim approuve complètement ce que je dis là, parce que les Raptors.
Beaucoup d'émotions sur le plateau.
Non, mais c'est vrai, parce que mes chers Raptors.
Vous l'entendez sourire, mais il y a une larme qui coule.
C'est vrai, parce que mes chers Raptors, quand même, qui a fini meilleure équipe à l'Est l'année dernière et qui se fait balayer en playoff par un joueur, LeBron James, avec les Cavs à l'époque de Cleveland. Donc, on peut mettre Toronto dedans. Mais pour revenir sur
pourtant, il y en a 4, il n'y en a pas 3.
Voilà.
Il y a
4, totalement.
Après, moi, j'aime pas trop juger en début de saison, et notamment en NBA, il faut se rappeler qu'on est début novembre. Moi, je pense que tant qu'on n'arrive pas au match de Noël, les Christmas Games, tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, déjà, c'est dur de dire tout de suite, oui, est-ce que ce sont les favoris? Tout peut bouger, tout peut basculer. Et les playoffs, je parlais de Toronto, on peut bien voir qu'entre la saison régulière et les playoffs, ça peut être le jour et la nuit. Donc, c'est peut-être un petit peu tôt. Après, forcément, les équipes en présence, les équipes que tu as citées, forcément, elles feront partie des poils à gratter de cette saison contre Golden State.
Notamment Houston, tu l'as bien rappelé. Nassim, tu voulais dire quelque chose? Toi aussi, tu crois pas que c'est les trois plus gros concurrents? Il y en a un quatrième, les Raptors?
Oui, voilà.
Je te voyais sourire justement par rapport à ce que disait Karim.
Je voyais totalement aussi une quatrième équipe en la présence des Raptors de Toronto. Après, je rejoins aussi totalement l'avis de Karim. Il y a un monde d'écart, on l'a vu la saison dernière, Toronto qui ne balaye pas la conférence Est, mais domine sa conférence Est, termine leader, champion de conférence. Qu'est-ce qui se passe derrière? Le King LeBron marche sur les Raptors en balayant 4-0, un sweep.
Ah oui, mauvais souvenir.
Voilà, mauvais souvenir pour nous fans de Raptors, mais voilà, comme quoi, comme tu l'as dit, il y a encore un peu de temps à prendre avant d'émettre des jugements là-dessus. Mais on dégage quand même des prétendants, notamment OKC qui est pas mal. L'arrivée de Dennis Schroeder est quand même intéressante dans ce collectif. Avec Adams et Westbrook, d'ailleurs Westbrook qui s'est blessé. Dennis Schroeder a pu prendre la place assez facilement contre une équipe des Rockets qui a du mal en ce début de saison. Donc, moi, à la limite, j'aurais dit, comme tu as dit, 3, mais j'aurais enlevé les Rockets.
Ah ouais?
Ouais, j'aurais enlevé les Rockets parce que j'ai l'impression que c'est peut-être la saison trop pour James Harden au sein de cet effectif. Je sais pas, il me donne l'impression d'avoir du mal dans ce collectif. Il aurait dû quitter ses Rockets à un moment donné pour rejoindre une top équipe. Peut-être pas les Golden State, comme a pu le faire d'autres joueurs comme Kevin Durant, par exemple ouais. Mais voilà, peut-être essayer de rejoindre une autre équipe, comme l'a fait par exemple Kyrie Irving, qui a compris qu'au bout d'un moment, ça suffisait pas d'être à côté de LeBron en tant qu'assistant. Il est parti ailleurs à Boston et grand bien lui a pris parce que vu le début de saison des Cavaliers, c'est assez terrible. Donc oui, je pense qu'il y a trois équipes, mais je mettrai pas les Rockets dans ces trois équipes.
Ton favori, c'est quoi? C'est Houston?
Bah non, pour le coup, c'est pas Houston.
Non, bah non.
Je sais pas.
Ah oui, il a été MVP la saison dernière, mais je ne pense pas du tout qu'il le sera la saison, cette saison. Je pense que ça va être un joueur des Golden State. Parce que, partis comme ils sont partis, ça va être un rouleau compresseur pas possible. Même si les Raptors, vu leur début de saison fantastique, arrivent en finale de conférence, arrivent en finale NBA, face à ces Golden State qui, en plus de ça, se sont renforcés.
Ouais.
Ça va être terriblement dur. Steph Curry est parti sur des bases stratosphériques. Kevin Durant à ses côtés, laisse tomber. Il y a aussi, j'ai oublié le nom, le troisième homme des
Michael Jordan, Clay
Thompson.
Voilà, Clay Thompson qui a été fantastique. Je crois 50 points en trois quarts-temps.
On en parlait ici d'ailleurs justement la semaine dernière.
Ce genre de joueur, t'en as un par équipe maximum. Par exemple, au Raptors, t'as Kawhi Leonard qui serait capable peut-être dans un élan de folie de faire 40-50 points. Un Golden State, ils sont trois à le faire. Ils sont trois joueurs à le faire.
Ça peut venir
dans quelle équipe de NBA, peu importe les saisons, même dans l'histoire, on a trois joueurs capables de mettre 50 points dans un match. J'en ai pas le souvenir. Même les Chicago Bulls de Michael Jordan, de son Altesse Air Jordan, il y avait que lui qui était capable de réaliser un aussi grand exploit.
Eh ben, de toute façon, on suivra ça de très près, les résultats en NBA, puisqu'on en parle quasiment chaque semaine. On se retrouve tout de suite, on va parler football, notamment la liste des Bleus de Didier Deschamps. À tout de suite sur Beurre FM.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et on est de retour sur Beurre FM et sur Time Sport avec nos consultants Karim Baldé, Nassim Bourras, Claude Tollé, Mamadou Lamine Mané et Flo à la réalisation.
On va
tout de suite parler football avec notamment la liste des Bleus annoncée hier par Didier Deschamps. C'est tout de suite.
Time Sport.
Et c'est incroyable, mais vrai, puisque toujours pas de Lacazette en bleu. Un seul vrai buteur avec quatre ailiers. Matuidi et Deschamps à contester. Ferland, Mendy, Digne, Langlais, Sacco. Peut-on revenir en 2020 avec le même groupe vainqueur de cet été? C'est la question qu'on peut se poser. Karim?
Non.
Et pourquoi non?
Non.
On veut de l'argumentation.
Je suis peut-être un peu sévère, mais en fait, sur cette liste-là, par exemple, autant au mois de septembre, l'euphorie du mondial, ok, on garde le groupe des champions du monde, c'est plutôt logique. Octobre, à la limite, voilà, il a un petit peu changé en fonction des blessés, mais on peut encore comprendre. Mais là, vu la méforme de certains dans les clubs, et tu l'as rappelé par exemple par rapport à Lacazette, le fait qu'il y ait peu d'attaquants, qu'il y ait des joueurs blessés, ou on va dire un certain qui soit dans la liste, c'est dommage que Didier Deschamps n'essaye pas quelque chose. Je pense que c'est le bon moment.
Il a essayé au moins une chose, c'est qu'il a rappelé Anthony Martial, puisque
oui.
Voilà.
Par
la force des choses, oui. Mais quand même. Il modifie les choses. Claude Tollé, tu voulais rajouter quelque chose concernant l'annonce, des Bleus. Comment tu l'as perçu?
Elle est sans surprise. Après, il est fidèle à sa méthode, Deschamps. Il est fidèle à sa méthode, comme pas mal de sélectionneurs aussi lorsqu'ils sortent grandis d'une compétition. Et c'est vrai que tu restes quand même sur une base. Alors après, je suis d'accord avec Karim sur le fait que t'as toujours envie de voir des retours ou de nouveaux joueurs.
Maintenant, et pas de voir Tovin par exemple, sans vouloir le citer, mais bien, pas de voir des joueurs en méforme.
Maintenant, c'est vrai qu'en méforme, t'as quand même t'as Mandanda qui est pas très bien, t'as Pavard, t'as Sidibé qui joue quasiment pas, Rami, Tovin,
ça fait beaucoup.
Que ça fait beaucoup.
Dans un groupe, Giroud aussi, même s'il a marqué hier,
on sait que c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'il garde, il y a l'état d'esprit groupe qui est extrêmement importante. C'est quelqu'un de quand même de très intelligent des gens, je pense que la liste ne sera pas la même dans un an et demi si ces joueurs-là gardent le niveau actuel, ils partiront pas à l'Euro.
Ouais.
Enfin, clairement. Donc après, garder le groupe, la base, c'est important. Mais après, c'est vrai qu'il faut être capable quand même d'apporter une touche, d'essayer.
Le renouvellement.
Maintenant, il faut savoir quand même 50 joueurs qui sont présélectionnés. Donc, ils font le tour quand même des stades. Donc, on peut leur faire confiance. Mais bon.
Et oui, cette liste qui intervient justement par rapport au match que l'équipe de France va devoir jouer contre les Pays-Bas et l'Uruguay en novembre. Nassim, tu voulais dire quelque chose par rapport à cette liste? Finalement, il n'y a pas trop de surprises.
Oui, il n'y a pas trop de surprises. On connaît un peu la mentalité et le système de jeu de Didier Deschamps. Moi, je retiens juste qu'il n'a pas retenu les leçons des anciens sélectionneurs des pays champions du monde, notamment l'Allemagne et l'Espagne, qui avaient fait exactement la même erreur en gardant un groupe vainqueur de Coupe du Monde et qui sont rétamés complètement la face 4 ans plus tard.
Oui, 4 ans plus tard, mais il y a quand même l'Euro, donc on
peut
dire,
là, y a l'Euro, mais quand même.
Doublé, et après on
mais quand même, là on est avec une sélection qui est quand même quasiment à 40% affaiblie avec des joueurs qui jouent très peu ou mal avec leur club. Qu'il continue comme ça, il passera pas les poules à l'Euro. C'est aussi simple que ça, c'est tout. Après, parce que là, on se retrouve quand même avec des joueurs qui vont être titulaires alors qu'ils sont très moyens ou mauvais en club. Moi, je prends le cas de Giroud, par exemple. On parle souvent du cas Lacazette. Pourquoi on ramène Lacazette ? Moi, je suis pas surpris du tout que Lacazette n'y soit pas. Voilà. Moi, je sais que Lacazette n'y sera pas. Et Lacazette n'a pas le profil pour être titulaire en équipe de France.
Mais c'est pas être titulaire, c'est au moins faire partie du groupe.
Même pas. Tout simplement parce
pourquoi
que.
Il est régulier.
Il est régulier, il est bon. Il est fantastique. C'est le meilleur attaquant français actuellement.
Mais là, il a rappelé Martial. Martial, c'est pareil. Il a dit qu'il a une certaine maturité. Mais c'est pas l'attaquant que cherche Deschamps.
L'attaquant que cherche Deschamps, c'est un attaquant comme Olivier Giroud. Et il se trouve en Bundesliga. Il s'appelle Sébastien Haller.
À chaque fois, c'est ramené à la Bundesliga.
Non, mais c'est la vérité. C'est le joueur qui ressemble le plus à Olivier Giroud. Après, il est incroyablement moins bon que Lacazette. On sera tous d'accord là-dessus. Mais c'est malheureusement le joueur qui a le plus de chances d'être sélectionné. Moi, je table à 100% plus de chances que Haller soit appelé plutôt que Lacazette. Parce qu'il préfère ce type de joueur, c'est tout. Je suis désolé pour Lacazette, c'est un excellent joueur, je l'aime bien. Mais ça colle pas au jeu Deschamps. Voilà, Deschamps. Et le problème, c'est que Deschamps a été champion du monde. Donc il va dire, voilà, j'ai été champion du monde avec ça. Voilà, c'est réglé.
Ouais, bien sûr, mais après, t'as les mentalités, t'as l'esprit.
T'as le groupe,
t'as le fait de respecter aussi. Ça, c'est vrai qu'on le voit pas, souvent. Le jeu sans ballon, c'est important. Je sais que Lacazette, il lui a reproché notamment ce jeu sans ballon de ne pas défendre aussi. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que il est en feu. S'il continue comme ça, je pense qu'il ira dans le groupe. Il le surveille.
À la limite, il sera peut-être dans le groupe. Mais est-ce qu'il peut prétendre une place de titulaire?
Non, il viendra dans le groupe pour jouer
le super sub, pour compléter.
Complètement. Parce que de toute manière, Deschamps, son leitmotiv, c'est quelqu'un de très cartésien. Enfin, il a pas de folie dans sa gestion de l'effectif. Il nous a fait des surprises. On a vu Hernandez et Pavard, que beaucoup de personnes n'avaient pas vu arriver justement.
Non, c'est sûr.
Mais quand il le fait à dose homéopathique. Il a son cadre et il va pas le bousculer pour autant. Donc il a son type de jeu effectivement. Et comme dit Nassim, demain un Lacazette, même s'il est bouillant en ce moment, c'est pas le profil de Giroud.
Deschamps, il veut juste un
de façon, pivot. Et sans vouloir reparler encore et le remettre sur le tapis, on en a assez parlé ici. Il s'est passé de Benzema parce qu'il en avait pas besoin pour diverses raisons, mais même sportivement parce que Benzema ne rentrait pas dans son schéma de jeu. Aussi bon qu'il soit, aussi 4 Ligue des Champions qu'il ait remporté, il avait besoin d'un profil comme Giroud. Et il s'est séparé de Benzema. Il l'a fait, il l'a pris de risque et ça a payé. Donc il est aujourd'hui conforté dans ses choix en se disant que s'il reproduit la même chose, alors après, est-ce que c'est trop ou pas? Ah, ça, on va le voir. Il a quand même la chance d'avoir un groupe jeune.
Karim, tu veux rajouter quelque chose? Nassim, parce que quand tu disais qu'effectivement, si on va comme ça, 2020, c'est de la cata, mais soyons prudents parce que c'est encore tôt. C'est-à-dire que là, on est au mois de novembre, la prochaine liste sera au mois de mars, voilà.
La Ligue des Nations,
il y aura les éliminatoires, si je ne me trompe pas, qui vont commencer à ce moment-là. Et voilà, il y a encore un peu de temps pour inclure d'autres joueurs. Tu parlais de Sébastien Haller, je vois, parce que c'est Bundesliga. Et je serais. Pourquoi pas? Moi, j'ai pourquoi pas.
De toute façon, on regardera la
prochaine. Mais il y a encore du temps pour affiner tout ça tranquillement.
Il y a le temps encore.
C'est surtout qu'il fait des tests. Et d'ailleurs, on verra ces tests justement le 16 novembre à Rotterdam pour le match France, enfin Pays-Bas France. Donc voilà, je pense que c'est surtout aussi. D'ailleurs, la surprise, c'est aussi en défense. Voilà. Bon, après, Lucas Hernandez est touché,
il est blessé.
Donc voilà, il pourra pas être de la partie. Ça sera Raphaël Varane à sa place. Donc on aura l'occasion d'en reparler des Bleus. On va passer au mode pressing et surtout au Grand Prix.
Time Sport. Le duel.
Le duel, mode pressing également. C'est le Grand Prix du Brésil. Faut-il plus protéger les pilotes ou cela fait-il partie du spectacle qu'offre la Formule 1? C'est la question qu'on pourrait se poser puisque la FIA, la Fédération Internationale d'Automobile, a obtenu plus de garanties et plus de sécurité après diverses agressions aux abords justement du circuit à Sao Paulo. Voilà le circuit qui sera mis à l'ordre. Il y aura du moins un service d'ordre qui va être ajouté dimanche pour le Grand Prix. Est-ce que vous pensez justement que dans ces pays-là, on a besoin aussi de plus protéger les sportifs et notamment les pilotes, Claude?
Si je veux comparer.
On peut mettre ça en parallèle hein, avec les JO de Rio, hein, c'est pareil.
Ouais,
hein,
les JO de Rio, tu peux aussi, tu sais, même sur des. On a eu des rencontres de foot où les. Des matchs n'ont pas eu lieu. On a eu Israël, on a eu la Yougoslavie en 92, on a la Syrie qui ne peut pas jouer sur ses terres. C'est vrai que c'est un petit peu. C'est quand même assez tendu au Brésil, mais.
Il n'y a pas de conflit, voilà, parce que par rapport aux exemples que tu donnes, voilà, là, c'est pas ça. Un conflit.
Voilà,
c'est y a pas, le Brésil n'est pas dans la guerre.
C'est politique, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est que je pense quand même que s'ils ont été capables d'organiser une Coupe du Monde des JO, on est quand même capable, je ne sais pas ce que vous en pensez, de protéger, d'organiser un Grand Prix. Enfin, je vois pas.
Oui, et puis en plus, c'est un Grand Prix mythique quand même, Interlagos. C'est pas la première fois que le Grand Prix se déroule au Brésil. C'est quasiment l'un des circuits les plus anciens, je pense, du circuit
avec
mondial.
L'Australie,
notamment, ça fait partie des rendez-vous incontournable. Donc, je pense, voilà, bien sûr qu'il y a ces problèmes de sécurité l'année dernière, mais après,
il y a eu des récents incidents, mais après, tu fais bien de le rappeler. C'est en novembre 2017, voilà, les trois journées de présence sur le circuit brésilien avaient été marquées par une multiplication d'actes violents, notamment l'équipe, un minibus de l'équipe Mercedes qui avait été braqué par des truands armés à la sortie du circuit. Il y a un vrai problème de sécurité au Brésil et on l'a bien vu. D'ailleurs, c'est ce que Bolsonaro veut essayer de régler. Hein, on va pas repartir sur ce débat-là, mais comme Claude le rappelait, il n'y a pas que le Brésil. Mais comment on peut sécuriser, on peut apporter plus de sécurité, Nassim?
C'est très simple. Si tu peux pas sécuriser un grand pays comme Interlagos, aussi mythique qu'il puisse être, tu le fais dégager du planning, c'est tout.
Et tu les
pilotes de Formule 1, ça tombe bien. C'est un bon timing. Les pilotes de Formule 1 sont en train de se dire, voilà, il y a trop de circuits. Il y a trop de circuits dans la saison. Bah, c'est très bien. Tu verras Interlagos. Il y a d'ailleurs l'officialisation du Grand Prix du Vietnam qui vient d'être annoncé. Voilà. Donc, tu peux très bien remplacer Interlagos par Vietnam. Alors,
ça,
okay,
c'est plus mythique, c'est compliqué.
C'est moins sexy, mais je suis d'accord avec toi, Claude. Le problème, c'est que si tu n'es pas capable de gérer, si la FIA n'est pas capable de gérer tout ce qui se passe autour, parce qu'on parle pas de l'intérieur du Grand Prix. Le Grand Prix s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de soucis particuliers. C'est ce qui se passe à l'extérieur. Là, c'est devient plus tendu parce que ce qui se passe à l'extérieur n'est plus vraiment en charge de la FIA, c'est plus en charge des pouvoirs publics. Et si les pouvoirs publics ne sont pas capables de protéger un Grand Prix de Formule 1, bah désolé, ils ne sont plus aptes à prendre ce circuit sur Formule 1.
Mais vous doutez bien qu'en plus, avec tout le business qui est généré autour de la F1, en tout cas le business géré par la FIA, ça va trancher. C'est-à-dire que s'il n'y a pas possibilité de continuer et que ça nuit au business. J'ai toute proportion gardée, le Paris-Dakar a changé aussi.
Oui, voilà.
On n'en est pas là. On n'en est pas sur les actes terroristes ou tout, de la menace terroriste, mais à un moment donné, quand le business, il est menacé, eh ben, on le décale. Et c'est ce qui va se passer avec la FIA. Si jamais ça ne se résout pas, quelle que soit l'antériorité de ce Grand Prix. Moi, je me souviens de Ayrton Senna qui a fait une course à Interlagos sous la pluie. Il a une victoire. Enfin, même pour le peuple brésilien, enfin, c'est un circuit, quand on parle de circuit mythique, mais les intérêts font qu'à un moment donné, si la sécurité des participants ou de l'organisation n'est pas assurée, le Grand Prix va déménager.
Mais surtout, on dit quoi si demain un Hamilton ou un Schumacher il y a 10 ans se serait fait agresser violemment à Interlagos? On aurait dit, mais désolé, le Grand Prix est trop mythique, on peut pas le supprimer.
Non, les problématiques de sécurité à ce niveau-là, elles vont être gérées.
Si t'es pas capable de gérer ou de mettre un minimum de sécurité dans un Grand Prix, tu le dégages.
Mais c'est pas eux qui vont se faire agresser, c'est nous qui allons faire agresser sur vos Grand Prix. Ils sont tranquilles.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'ils ont réussi à, ils ont fait, la FIA a fait une demande auprès des autorités locales et ils ont réussi à obtenir une protection policière. Renforcé voilà pour le reste de l'événement et surtout pour ce week-end. Après voilà, faut savoir bon les JO de Rio, t'en parlais à l'instant Claude, ils se sont déroulés dans une ambiance particulière, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu pas mal d'agressions. Voilà, il y a eu quand même pas mal d'agressions. Le Brésil fait partie des 10 pays où il y a un taux de criminalité le plus haut dans le monde. Donc oui, faut se poser des questions, mais comment régler ce souci, ça c'est une autre question parce que d'un côté, donner plus de moyens, soit on peut donner plus de moyens aux autorités locales,
si c'est eux qui organisent, c'est à eux de se débrouiller pour assurer la sécurité.
Ils en ont les moyens.
Oui, ils en ont les moyens. Mais quand on regarde ce qui s'est passé à Rio Il y a des favelas qui ont réussi à revenir, qui ont réussi à reprendre du terrain, qui ont agressé beaucoup de personnes qui se sont déplacées au JO. Quand il y a des circuits de Formule 1 au Brésil, il se passe la même chose. En Argentine, vers la Bombonera, c'est exactement pareil quand l'Argentine joue, ou quand il y a l'équipe de Boca Juniors.
Mais c'est normal,
vous allez le voir tout de suite, qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement sont amoureux du sport et ne vont pas se déplacer dans les stades parce que justement il y a ce manque de sécurité. Et dans le cas de la Formule 1, c'est pas normal de devoir protéger encore plus les pilotes.
Tant que t'as de l'argent, je suis désolé, tu peux te permettre d'accueillir, c'est tout.
Oui.
Tant que la FIA recevra ses millions de la part du Brésil, ils diront pas non à accueillir un grand prix à Interlagos. Après, moi encore une fois, si Interlagos pose tant de problèmes que ça, ils ont juste à se déplacer. Il y a un autre Grand Prix qui existe très bien en Argentine, juste à côté. Il a été supprimé, il peut très bien être remis. Voilà, c'est
enfin,
tout.
Enfin, il peut être remis, ça dépend des conditions économiques. Si l'Argentine, s'il a quelqu'un surtout derrière, un promoteur qui souhaite relancer, comme ce qui s'est passé au Mexique par exemple, parce qu'au Mexique, le Grand Prix avait disparu pendant une bonne vingtaine d'années. Oui. Et après, avec l'appui de certains sponsors, ils ont pu relancer le Grand Prix du Mexique à Mexico. Donc c'est pas seulement on décide de le transférer en Argentine, non, il faut qu'il y ait quelqu'un en Argentine, un patron et quelqu'un de plutôt riche qui se dise, bon, la Formule 1 ça peut être profitable, on va remettre des sous dans la machine pour organiser un Grand Prix, sachant que les conditions de Grand Prix entre il y a 20 ans à l'époque où il y a le Grand Prix de Buenos Aires et aujourd'hui ont quand même changé, et vu qu'André est surchargé.
Mais je pense que de toute façon quand on est organisé, comme je pense que la FIA est organisée, il doit y avoir une sorte de petite liste d'attente de Grand Prix qui doit être validée ou pas, en sachant qu'il y a un cahier des charges. Il y a un cahier des charges au niveau économique, un cahier des charges au niveau organisationnel et un cahier des charges au niveau financier et de la sécurité aussi. Donc si forcément tout ça c'est pas pris en charge, je pense que il doit y avoir une petite queue de personnes qui tapent à la porte.
Et je peux mettre
une solution de repli au cas où, ils n'auront que le choix derrière.
Et justement, moi je pense que pour le coup, si tu supprimes pour le coup le Brésil dans le cas où ça serait supprimé, ce serait très bien d'envoyer un nouveau signal à l'Afrique, qui n'a toujours pas de Grand Prix en Formule 1.
Un Grand Prix de Formule 1 en Afrique.
Pourquoi pas en Afrique du Sud. Désolé. Le Maroc pour le coup organise le Grand Prix à Marrakech de Formule E.
Oui, la WTCC qui était à Marrakech.
Voilà aussi. Donc pourquoi pas envoyer un bon signal à l'Afrique. Après, tous les pays africains ne seront pas capables d'organiser un Grand Prix de Formule 1.
Je rappelle juste que le Dakar a été décalé. Le Dakar était au Sénégal.
Grand Prix en Guinée.
Ça va commencer à draguer la Guinée là. Alors là, il a trouvé les mots pour me pipier quand même.
Non mais on parle d'un Grand Prix. De toute façon, il y a que deux pays qui seraient capables théoriquement de l'organiser, ce serait le Maroc ou l'Afrique du Sud. Il y a que ces deux pays là qui ont un minimum d'historique avec le sport automobile et un minimum de puissance financière pour organiser ce Grand Prix.
Ouais, mais j'ai du mal à voir quand même, hein. Honnêtement, un Grand Prix en Afrique, vu le peu d'intérêt qu'il y a en Afrique pour la Formule 1, rien que ça déjà. Avant de parler,
ça permet d'ouvrir un nouveau marché pour le coup.
Oui, mais la Formule 1, c'est un sport quand même qui demande beaucoup de moyens. Je suis pas sûr.
On reparlera de l'Afrique et de la Formule 1. Merci à toutes et à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que c'est grâce à vous qu'on existe. C'est grâce à vous que le sport existe. Ouais, peut-être. Hein. En tout cas, merci à Claude Tollet. Merci à Mamadou Lamine Mané. À Karim Baldé, à Nassim Bourras.
Merci à toi.
On se retrouve lundi de 18h à 19h pour une nouvelle émission de Time Sport. Merci Claude.
Salut Guillaume. 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.